C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous sommes à Marrakech, là où s'est déroulée la 22e conférence des Nations Unies sur le climat. Vous en avez largement entendu parler sur RFI cette semaine, car nous sommes venus nombreux à cette COP22, une COP africaine sur laquelle a plané l'ombre de la récente élection de Donald Trump. Mais un an après l'accord de Paris, près de 30 000 personnes venues de 193 pays ont démontré que la lutte contre les changements climatiques est désormais une priorité pour de nombreux gouvernements, pour beaucoup d'entreprises, mais il faut accélérer la mobilisation qui n'est toujours pas à la hauteur des impacts qui touchent les plus pauvres. Un des grands succès de cette COP22, et c'est à mettre au crédit de la présidence marocaine de cette conférence, c'est d'avoir fait de l'agriculture une thématique incontournable qui n'a, cela dit, toujours pas pris la place qu'elle mérite dans ces négociations internationales. Bonjour Patrice Burger.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du CARI, le Centre d'Action et de Réalisation Internationale. Vous vous battez depuis des années pour que l'agriculture dont dépendent les plus pauvres dans les pays en développement soit au centre des discussions internationales sur les changements climatiques. Expliquez-nous pourquoi.
D'abord, je rappelle simplement que dans les 60 dernières années, il y a 40% des conflits internationaux qui ont éclaté à cause des compétitions sur les ressources naturelles. Et actuellement, on estime qu'il y a à peu près 37 pays qui sont en risque de conflit, toujours à cause des compétitions sur les ressources naturelles. Donc ça veut dire que l'agriculture, elle doit être au centre des discussions sur la stabilité et la paix mondiale. Et il se trouve que l'agriculture a un formidable potentiel aussi en matière de séquestration de l'excédent des gaz à effet de serre que nous avons accumulé dans l'air, puisque la terre, les sols, c'est le deuxième réservoir de carbone après les océans. Donc selon le modèle d'agriculture que l'on applique, on émet du gaz à effet de serre ou on stocke du gaz à effet de serre.
Alors expliquez-nous pourquoi.
Il se trouve que selon la biomasse et la vie du sol, la vie du sol et la matière organique qu'il y a dans le sol, la fertilité des sols augmente et donc la production que l'on peut faire sur ces sols augmente. Dans le même temps, séquestrer de la biomasse, donc tout ce qui est vert, tout ce qui est végétal, tout ce qui est vivant en quelque sorte, que l'on fait retourner dans la terre, ça c'est de la biomasse, ça c'est du carbone qui retourne dans la terre. Plus on travaille la terre en profondeur, plus on y incorpore des produits chimiques, plus en fait on tue la vie du sol, plus on retourne les sols profondément, plus ça libère des gaz à effet de serre. Donc effectivement, l'agriculture est à la fois un problème pour le changement climatique à cause des émissions, mais c'est aussi une énorme solution en matière de stockage, et plus que ça. Et c'est la raison pour laquelle, ici à Marrakech, le gouvernement marocain insiste tellement sur l'adaptation. C'est quand même le revenu d'une grande partie de la population mondiale, et notamment les paysans, qui assurent notre sécurité alimentaire qui est en cause.
Oui, il faut rappeler que 70% de ce que nous mangeons provient justement de cette agriculture familiale. Alors, deux initiatives ont été lancées cette semaine à Marrakech. L'initiative 3A pour adaptation Afrique-agriculture. Cette initiative a été lancée par 27 pays africains pour s'adapter justement aux conséquences des changements climatiques, tant en zone sahélienne que dans le bassin du Congo. Et l'initiative Oasis Durable pour protéger ces zones de végétation dont dépendent 150 millions de personnes menacées par l'avancée du désert et la hausse des températures. Pourtant, des solutions existent pour préserver les sols et empêcher les migrations des populations, comme nous avons pu le constater avec un programme en cours dans la Palmeraie au nord-ouest de Marrakech.
L'émission de la radio de Anne-Cécile, oui, on a bien fait marcher, oui, on a mal.
Bonjour, Elfège Guetem-Zahir d'AgriSud International. Je suis la directrice adjointe des opérations et je suis basée au Maroc, donc j'ai la chance de suivre spécifiquement les programmes d'AgriSud ici, dans le Royaume.
Et vous nous accueillez là, dans la palmeraie de Marrakech.
Exactement, et plus spécifiquement dans l'exploitation d'Abderrahim, un des producteurs que nous accompagnons dans la mise à niveau des pratiques agricoles, dans le contexte compliqué dans lequel il vit, puisque la palmeraie de Marrakech, l'oasis, est particulièrement menacée aujourd'hui par les effets du changement climatique.
Alors cette palmeraie de Marrakech, on la connaît plus pour son côté touristique qu'agricole. Alors elle s'étend sur combien d'hectares? Est-ce que vous pouvez nous présenter cette palmeraie?
Elle s'étend sur 12 000 hectares, y compris avec la partie urbaine. Et depuis 2007, il y a un programme qui a été confié à Son Altesse Royale Lala Hasna, qui préside la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, pour préserver cette palmeraie avec une action de sauvegarde et de développement.
Elle était menacée par quoi ?
Alors, deux grands facteurs qui menacent la palmeraie de Marrakech. Un premier d'origine climatique, avec les perturbations, notamment sur les pluies. Et le deuxième grand facteur, plus anthropique, avec le grignotage de l'urbanisation.
Quelles sont les conséquences que l'on voit aujourd'hui des changements climatiques sur cette palmeraie, sur l'écosystème ici?
Alors je vais prendre deux exemples très concrets. 2014, crue exceptionnelle, jamais vécue chez les agriculteurs ni chez leurs parents, avec fin novembre 2014 d'importantes inondations. Et 2015, aucune précipitation. Voilà très concrètement avec quoi doivent composer les agriculteurs aujourd'hui.
D'où ce programme? Alors comment est-ce que vous les accompagnez?
Alors, on accompagne les agriculteurs dans une logique de développement de leur activité agricole comme une petite entreprise qui doit être durable, donc une entreprise viable au niveau économique et qui met en place des pratiques qui leur permettent de produire plus, mais surtout de produire mieux.
On va s'écarter parce que là, il y a une charrette qui passe. Salam alaikum. Avec justement des cardons à l'arrière.
Des cardons, effectivement, qui est une des principales productions de la palmeraie de Marrakech. Et on travaille aujourd'hui d'ailleurs beaucoup à la diversification, puisqu'on pourrait effectivement parler de monoculture de cardons jusqu'à récemment.
Donc vous accompagnez combien d'agriculteurs ici dans ce programme ?
Alors sur ce projet pilote, nous accompagnons 25% des exploitations agricoles recensées sur le territoire de la palmeraie nord-ouest. Il y a environ 200 exploitations recensées, on accompagne 50 familles. L'objectif, c'est de réfléchir avec les producteurs à l'adaptation de leurs pratiques pour continuer à produire, et comme je le disais, produire plus, mais surtout produire mieux avec une qualité sanitaire des produits et une préservation des ressources naturelles. Alors pour tout ce qui est technique, je vais surtout laisser la main à mes collaborateurs parce que ce sont eux les pros sur le terrain et qui accompagnent au quotidien les agriculteurs, avec Abdelilah Zitouni, notre responsable technico-économique, et Boubker Rouja, qui est notre responsable technique sur le terrain.
Salam alaikum.
Alaikum salam.
Alaikum salam, bonjour.
Zitouni, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous accompagnez ces agriculteurs ?
Alors on les accompagne sur plusieurs niveaux, au niveau technique, au niveau économique et au niveau valorisation et commercialisation des produits. Alors on travaille sur plusieurs sujets, d'abord la préservation des ressources naturelles dans la palmeraie, puis l'intégration des nouvelles techniques pour une production en quantité et en qualité, puis on travaille sur le côté écoulement de produits avec d'autres partenaires tels que les hôtels à la palmeraie.
L'un des gros enjeux ici, c'est la gestion de l'eau. Il y a un puits là, juste à côté de nous. Comment est-ce que vous faites pour optimiser cette gestion de l'eau ?
Au niveau mobilisation, on travaille pour une transition d'une énergie à base de gasoil et de gaz vers une énergie solaire. Au niveau distribution, on travaille plutôt pour changer leur système, surtout des canaux et des dispositifs qui sont défectueux, qui génèrent de nombreuses pertes de cette matière.
Pour limiter les fuites?
Oui. Au niveau gestion de l'eau, on travaille avec plusieurs pratiques. On peut citer le bionnage. C'est une technique qui va nous permettre de minimiser les apports d'eau pour l'irrigation.
Alors le bionnage, parce que à la radio on n'a pas l'image, hein. En fait il s'agit de creuser dans les champs comme des sillons, et en haut des mottes on sème les plants et l'eau circule autour.
Voilà, alors parmi les avantages de cette technique, d'abord c'est de minimiser les apports en eau et gagner à peu près une semaine à 10 jours.
Et dans une agriculture agroécologique, évidemment, il n'y a pas d'intrants chimiques. Donc comment est-ce que vous faites ?
On travaille sur des produits naturels, soit pour le traitement contre les maladies, soit pour la fertilisation. Dans ce point-là, on travaille sur le recyclage du fumier, qui a double effet, soit sur le maintien de l'eau dans le sol, et d'autre part, c'est d'assurer une bonne fertilisation de ces cultures.
Et pour les traitements contre les insectes ?
Effectivement, pour les traitements, on travaille avec des produits qui sont localement disponibles. Actuellement, on travaille sur trois principaux produits qui sont le piment fort contre les insectes généralement, l'ail contre les maladies cryptogamiques, et on travaille aussi avec le savon noir, ce qu'on le trouve facilement dans le marché avec un prix très raisonnable.
Boubker Oujard, vous accompagnez les agriculteurs dans le choix de ce qu'ils plantent et dans l'aménagement de leurs parcelles. Et là aussi, vous avez développé des cultures pour combattre les insectes ou les envahisseurs.
On a bande de persil pour empêcher les escargots.
Ça veut dire tout autour de la parcelle, vous avez planté des bandes de persil et ça fait un pare-escargot, ça empêche les escargots de rentrer.
Oui, c'est ça exactement. On a aussi une plante médicinale, c'est l'absinthe. C'est utilisé pour empêcher les attaques des insectes au niveau de la parcelle.
Vous êtes ici chez Abderrahim, hein, qui est l'exploitant de cette parcelle.
Merci de nous accueillir. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce programme qui vous accompagne depuis plus d'un an ?
D'abord, c'était une bonne occasion d'avoir des techniciens pour nous accompagner. Et le plus de ce projet pour nous, c'est la diversification des produits et en plus, c'est d'avoir des revenus supplémentaires.
Et est-ce que ça a été facile de changer vos méthodes de culture ?
On a travaillé avec des méthodes qui n'ont pas donné de très bons résultats. Alors, après la revue du projet, on a testé plusieurs techniques, plusieurs cultures, plusieurs espèces qui ont donné des bons résultats en termes de qualité, de quantité et aussi de revenus.
Beaucoup de revenus supplémentaires ?
Les revenus sont augmentés à partir des cultures qu'on a introduites. Et aussi, c'est une occasion pour travailler avec d'autres hôtels prochainement, Inch'Allah. Et ça va être mieux.
Elfej, quel est ce projet de vendre la production aux hôtels? Apparemment, ça a l'air important pour augmenter les revenus.
Effectivement, quand nous avons travaillé sur le diagnostic avec les agriculteurs et puis les autres acteurs de la zone, on s'est rendu compte que d'une part, les agriculteurs écoulaient à très très bas prix sur le marché de gros ou avaient des intermédiaires qui venaient ici directement dans les exploitations pour acheter les produits à bas prix. D'autre part, on avait des hôteliers qui étaient relativement malheureux de ne pas pouvoir s'approvisionner auprès de leurs voisins. Donc, on a saisi cette opportunité, on a analysé avec les hôteliers leurs demandes et avec les agriculteurs quel type de produits techniquement il était possible de mettre en place et puis on essaye de construire petit à petit une offre adaptée à la demande. Le chemin est encore long mais les hôteliers sont très demandeurs et les agriculteurs comme vous pouvez l'entendre également très demandeurs, donc Inch'Allah nous y arriverons.
Et ce que vous faites ici, et si vous avez cette ambition de développement, c'est parce que vous le faites aussi ailleurs, au Maroc ?
Alors, AgriSud travaille avec son partenaire local, la Fondation Norcis, depuis quelques années maintenant. Et on a deux gros pôles d'intervention. Le premier à Ouarzazate, historiquement, depuis 2003. Et on continue à développer les programmes là-bas qui accompagnent 600 familles. Et on travaille bien évidemment dans d'autres pays d'Afrique, dans des contextes similaires ou dans des contextes zones humides.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Choukran de nous avoir accueillis. Choukran à Stadbal.
On vous remercie beaucoup d'avoir nous visité. Et on souhaite d'avoir d'autres rencontres, Inch'Allah.
Inch'Allah. Lassel Kabiri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association AOFEP, association Azif Ferkla pour l'environnement et le patrimoine, basée dans le sud-est du Maroc, près des Rachidia. Vous êtes aussi membre du RADO, le réseau associatif de développement durable des oasis. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage ?
D'abord, je remercie infiniment RFI de nous avoir invités à son plateau et de témoigner un peu des oasis au sud-est du Marocain. Et pour vous dire, le reportage, en l'écoutant, je me retrouve un peu par rapport à ce que j'ai dans les oasis, les vrais oasis qui sont au front du désert.
Il y a beaucoup d'oasis au Maroc ?
Oui, il y en a beaucoup, mais le nombre exact n'est pas encore connu. Et même la typologie des oasis, il n'est pas encore très bien connu.
Et est-ce que toutes ces oasis sont menacées au même niveau ?
Avec tous les problèmes actuels des changements climatiques, des changements globaux, l'un des écosystèmes les plus menacés, c'est le système des oasis. De nature, le système oasien, c'est un système fragile, précaire, mais qui a pu résister depuis des millénaires, malgré les variabilités climatiques, mais grâce à la vigilance de l'homme et de la femme oasienne. Actuellement, avec la problématique du déséquilibre qui s'est produit à cause de la non-vigilance de l'homme, plus l'action du changement climatique, malheureusement, si les choses continuent ainsi, ça va vers l'effacement et la disparition, malheureusement, de cet écosystème millénaire qui témoigne d'une civilisation millénaire de l'aride.
Alors, c'est ce que vous avez porté comme message ici durant la COP22 à Marrakech. Vous avez été l'un des porteurs de cette initiative Oasis Durable. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu ?
Être entendu, je pense que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, il a été entendu. Mais ça dépend des chefs. Ça dépend maintenant des décideurs à l'échelle de la planète.
Parce que ça, là, c'était la bonne occasion. Marrakech, vous me corrigez si je me trompe, mais historiquement, c'était une oasis au pied de l'Atlas.
Oui, oui,
c'est vrai. Donc c'était le moment où il fallait plaider pour la cause des oasis.
On n'a pas arrêté de faire tout ce qu'on peut pour faire entendre notre voix, soit dans les side events, soit dans les contacts qu'on a dans notre stand, Oasis, zone aride, toutes les personnalités qu'on rejoint dans la zone bleue, on essaye toujours d'apporter. Et on souhaite que les oasis sortent dans l'appel de Marrakech. En tout cas, si l'appel de Marrakech, s'il n'y a pas l'oasis, franchement, on sera très déçus, quoi.
Patrice Burger, cette initiative Oasis Durable, vous, on peut dire que vous la portez depuis 14, 15, 16 ans. Là encore, à Marrakech, c'est vrai qu'il y a des déclarations, des choses comme ça, mais ça ne rentre pas dans les négociations internationales. Ça a été encore repoussé à plus tard.
Oui, effectivement, nous poursuivons cette cause depuis 2002. En fait, nous avons été les premiers lanceurs d'alerte avec le réseau associatif de développement durable des oasis au sommet de la Terre à Johannesburg. Moi-même, j'ai tendu cette déclaration, cette voix des oasis à Johannesburg, à Nelson Mandela, du temps de son vivant encore. Donc, effectivement, ça remonte à longtemps. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un motif de satisfaction important ici à Marrakech, c'est qu'il y a eu le lancement d'une initiative internationale, d'une coalition mondiale pour les oasis. Alors cette initiative Oasis Durable, telle qu'elle est nommée, le Maroc en a pris le leadership pour beaucoup de raisons et pour celles que vous venez d'évoquer, notamment parce que Marrakech est elle-même une ancienne oasis. Et elle vise d'abord à, je dirais, à trois choses. À faire reconnaître ces écosystèmes vulnérables en termes de simplement de reconnaissance de leur vulnérabilité, de leur importance. Je rappelle que ces écosystèmes vulnérables ont ceci de particulier qu'ils sont sur une espèce de ligne de front, une ligne de front des dangers qui nous guettent, à la fois des dangers économiques, mais aussi des dangers sociaux liés à la déstabilisation des populations et à des mouvements migratoires où des gens ne peuvent plus gagner leur vie dans ces milieux-là. Donc il y a c'est des espèces de sentinelles, de repères, de marqueurs sur les lignes de front de la désertification et de l'aride. Voilà pourquoi déjà on s'y intéresse. Donc il faut les reconnaître comme tels. La deuxième chose, c'est qu'il faut les préserver. Et cette initiative vise à préserver. Préserver, ça veut dire, comme l'a dit Lassen Kabiri, d'abord de reconnaître où elles sont, ce qu'elles sont, de les caractériser, etc. Et ensuite, il faut permettre leur développement. Qui voudrait vivre dans un endroit où on n'a pas d'avenir ? Et je peux vous dire que les jeunes oasiens aujourd'hui, ils ne regardent pas leur oasis, ils regardent leur avenir ailleurs. Donc cette initiative Oasis Durable, elle est pour nous le symbole et on va bien faire tout le nécessaire pour qu'elle vive. Parce que lancer une initiative, c'est très bien, la faire vivre, c'en est une autre. Donc nous allons pousser, nous allons assumer notre rôle de participation de la société civile dans cette initiative pour qu'elle fonctionne. Il faut changer de comportement vis-à-vis de l'eau et de la terre, de l'eau et des sols, si nous voulons constituer un avenir viable.
Lassen Kabiri, un dernier mot.
On y croit quand même, Inch'Allah, que cette question des oasis, avec cette initiative Oasis Durable, qu'on aura notre place et certainement on pourra contribuer dans cette initiative internationale.
Patrice Burger.
Oui, simplement ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que les négociations sont en retard. Les initiatives sont en train de dépasser les négociations. Ce qu'il faut simplement dire, c'est que ces initiatives respectent un certain nombre de critères environnementaux et sociaux, comme les lignes directrices volontaires de la FAO sur la gestion durable des sols, comme le consentement préalable et librement informé, c'est-à-dire des standards sociaux et environnementaux. Sinon, ça va encore une fois être l'accaparement généralisé que nous ne souhaitons pas.
Merci, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Restez sur RFI juste après le flash d'info. Nous verrons avec nos invités comment les multinationales, mais aussi le monde de la finance et la société civile, on vient de l'entendre, se mobilisent pour lutter contre les changements climatiques. À tout de suite.